Voix du vent, le magazine de l'environnement.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de C'est pas du vent, des agriculteurs des pays en développement chez des paysans français. C'est l'idée de l'AFDI, un réseau d'agriculteurs français spécialisé dans le développement international. Depuis plus de 30 ans, ce réseau organise des échanges professionnels entre les différents acteurs du monde paysan. Cet été, ils étaient 16 jeunes agriculteurs venant du Burkina Faso, du Cameroun, de Tunisie ou encore du Cambodge. Ils ont été accueillis pendant 15 jours dans des exploitations agricoles françaises. Alors qu'ont-ils appris ? Qu'est-ce qui ressort de ces échanges? Les rencontres internationales de l'agriculture familiale, c'est un reportage d'Alice Milo. Alice Milo, bonjour.
Bonjour Igor.
Vous êtes donc allée dans le Maine-et-Loire, dans l'ouest de la France, à la rencontre de ces binômes franco-africains.
Oui, effectivement, et pour rencontrer Anis et Mathieu, je suis partie deux jours dans le petit village du Tremblay. On y trouve principalement des fermes, une charmante église et un bar-épicerie, c'est le seul commerce du village. C'est donc là que vit Mathieu Delanoé, 29 ans. Il est éleveur en veau de boucherie, il vit et travaille dans la ferme familiale qu'il a repris avec son frère il y a 3 ans. Et quand je suis allée leur rendre visite début septembre, cela faisait 10 jours que la petite famille accueillait Anis Sandi, un agriculteur tunisien âgé de 30 ans. Objectif, lui faire partager leur quotidien, un quotidien qui commence tous les matins à 7h.
Donc on va aller voir les veaux de boucherie pour nourrir les quelques veaux qu'il y a en infirmerie et voir si tout le monde va bien.
C'est dans ce grand bâtiment-là ?
C'est dans le grand bâtiment, oui, tout à fait.
Vous, Anis, vous êtes aussi vous êtes un agriculteur.
Oui, je suis un agriculteur, producteur en huile d'olive et pistache. Mais ici en France, c'est l'occasion pour faire la formation dans l'élevage.
Vous faites ça tous les matins, vous, depuis que vous êtes arrivé?
Oui, presque le matin, je fais 2 heures avec Mathieu, le soir, 1h30.
Alors, on y va. Alors, vous enfilez la blouse?
Oui, donc j'enfile tout le temps donc la cotte pour... protéger principalement les vêtements qu'on a des possibles éclaboussures et aussi des léchages de veau. Donc voilà, donc là on est dans le bâtiment donc avec les veaux.
Donc là concrètement vous faites de l'élevage de veaux, donc vous les récupérez, ils sont tout petits, puis vous les faites grossir jusqu'à ce qu'ils aient la taille nécessaire pour les envoyer à l'abattoir, c'est ça?
Ouais, alors le principe c'est donc on les récupère quand ils sont petits, entre les plus petits vont avoir 10 jours, les plus vieux vont avoir 3 semaines. Et on les garde en fait pendant 22 semaines.
Donc là ils sont à peu près à la moitié de leur vie en fait.
C'est ça, là ils sont à peu près à la moitié de leur vie, ouais.
Qu'est-ce qu'il est en train de faire là-bas, Anis, justement?
Donc là oui, Anis il a vu qu'on était en train de discuter, ce qu'il fait. Donc, il a vu qu'il y avait un veau qui avait fini de boire son lait. Il a pris le sautétine pour le remplir et le donner au veau qui n'avait pas encore bu.
Mais dis donc, vous êtes hyper à l'aise là. Vous prenez l'initiative, vous prenez vous-même le seau biberon, vous allez voir le veau, vous mettez le lait. Ça fait 10 jours que vous êtes là, on a l'impression que ça fait 10 ans en fait.
Ah ouais. Ça fait plaisir d'être comme ça dans la vie pratique et avec les contacts avec les veaux, la nourriture, les antibiotiques, tout ce qui c'est pas clair, Mathieu allait m'expliquer tout de suite. Quand je rentre chez moi dans la chambre, je fais les notes.
Vous écrivez tout sur un carnet?
Oui.
Donc c'est une vraie formation en fait pour vous.
Oui, c'est une bonne formation quand même, ouais. C'est chouette.
Du coup, Anis, il a très vite pris ses marques parce que donc depuis le 2-3e jour, comme il le disait, il a pris le réflexe d'ouvrir les sacs de maïs et de les mettre dans les nourrisseurs parce que c'est un très bon élève et c'est aussi une expérience assez forte parce que avoir un échange entre agriculteurs comme ça. Anis tunisien, moi français, et c'est quelque chose d'assez fort et très enrichissant. Ça nous remet un petit peu les pieds sur terre et en se disant bon bah voilà, on a des problèmes chez nous, mais il y a quand même pas que nous. Et en plus, j'ai hâte que d'une chose, c'est d'aller le voir chez lui pour voir les pistachiers et les oliviers, quoi.
C'est toute l'exploitation de votre papa, c'est ça?
Oui, oui, oui.
Que vous avez repris?
Oui. Après, j'ai fait des études en bac plus 4 en électronique, mais j'ai pas trouvé un travail. C'est ça, je prends le travail dans la ferme de mes parents.
Mais est-ce que c'est par défaut, du coup, vous avez décidé de devenir agriculteur?
Oui, exactement. On peut dire c'est en défaut, mais quand même, il y a beaucoup de chômage. Le taux de chômage dépasse dans le sud de la Tunisie peut-être 25% ou même arrive à 30%. C'est pour cela que j'ai profité de l'occasion pour orienter dans le monde agricole et réinstaller ou reprendre le travail avec, dans la ferme de mes grands-parents, de mes parents.
Il a ses problèmes, j'ai mes problèmes. En termes d'agriculture familiale, c'est ça aussi la diversité de la chose. C'est que dans chaque pays, il n'y a pas un système d'agriculture familiale cohérent. Et il y a des systèmes d'agriculture familiale. Voilà, aujourd'hui, avec mon frère, on élève 800 veaux. On a 45 hectares de culture à côté. Et nous, avec mon frère, on travaille beaucoup avec la coopérative d'utilisation de matériel agricole, la CUMA. En fait, le principe, c'est on a tous besoin de semer du blé ou de semer des céréales sur nos terres. Ce qu'on a décidé depuis cette année, c'est d'investir dans un tracteur assez puissant de 280 chevaux avec un semoir qui fait 6 mètres de large pour justement semer les céréales. Donc
tout le monde participe à l'achat du tracteur.
Voilà. À Nice, pour la grosse période de récolte, que ce soit en pistache ou en olive, il va faire appel à une location de tracteur et il fait appel à deux saisonniers.
Mais vous, à Nice, vous n'avez pas de coopérative comme ça chez vous en Tunisie?
Nous sommes des débutants quand même dans l'esprit coopératif quand même. Je pense que si on travaille en coopérative, au Kema, c'est mieux que travailler chacun pour soi. C'est parmi notre objectif, passer l'information, encourager les jeunes pour agrandir leur coopérative. Ouais.
Donc vous, là, votre mission, une de vos missions, c'est aussi de comprendre comment fonctionnent les coopératives,
oui,
ici au Tremblay, pour pouvoir importer ça et développer ça en Tunisie.
C'est ça, oui, exactement.
Ouais, on a fait le tour, donc c'est bon.
Alice Milot, cela fait 30 ans que l'AFDI, donc Agriculteurs Français et Développement International, organise ces échanges. Quels sont les autres objectifs de ces rencontres?
Eh bien, également briser les préjugés et montrer que d'autres modèles sont possibles. En tout cas, c'est l'expérience qu'a vécu Alphonse Djamdjam, 33 ans, agriculteur camerounais, producteur de cacao. Il a passé 10 jours à visiter des fermes dans la région Franche-Comté, dans l'est de la France. Il raconte sa surprise.
Dans ma tête, avant d'arriver en France, je me disais que je vais plutôt les montrer comment il faut cultiver. Je me disais qu'on venait plutôt les apprendre. Ça, c'est ce que j'avais en tête. Parce que je me disais que eux, ils sont plutôt ingénieurs et tout le reste, c'est dans la tête. Ça veut dire qu'ils ne vont pas sur le terrain. Et ils savent sur le papier. Ils sont des ingénieurs. Ils sont des techniciens supérieurs en agriculture. Mais sur le terrain, ils ne pratiquent pas.
Vous pensiez qu'on n'avait pas d'agriculteurs qui avaient les pieds dans la terre?
C'est ça, c'est exactement. C'est ce que j'ai pensé. C'est-à-dire, ils ne vont pas sur le terrain. Ça veut dire, on va aller sur le terrain. Je vais les montrer comment ça se passe en Afrique. Comment est-ce qu'on cultive?
Vous pensiez qu'on se nourrissait comment alors?
Ok, je croyais que tout vient de l'Afrique. Peut-être que c'est les Africains qui sont en France, qui vont dans les terrains, dans les champs, pour travailler, pour que les Français, ils achètent. Je ne savais pas que les Français eux-mêmes travaillaient plus que les Africains. Mais à ma grande surprise, quand j'arrive, c'est plutôt eux qui m'enseignent. Je venais être professeur, mais je me suis rendu compte que je n'étais qu'un petit élève. C'est-à-dire, j'ai eu honte en donnant le nombre d'états que j'ai déjà créé.
D'hectares.
Ah oui, en disant j'ai 6 états. Mais à ma grande surprise, j'arrive un jeune de 18 ou 20 ans, français, a plutôt 150 hectares d'exploitation. C'est énorme. J'ai eu honte à ma place. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que je ne faisais rien. Alors, ça me donne envie de rentrer plutôt au Cameroun. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est quand je vais toucher l'aéroport de Yaoundé et Simalène que je vais dire Dieu merci. Et tout de suite, après que je vais restituer à la Konapoukam ce que j'ai appris, je vais rentrer, me concentrer encore à nouveau pour qu'un jour, alors si je reviens en France dans 2-3 ans, que je dis que j'ai 20 hectares. Moi, ça m'a galvanisé. Je faisais un état avant pour manger. Maintenant, je vais cultiver plus pour commercialiser.
Concrètement, vous allez rentrer, comment vous allez pouvoir augmenter vos rendements en maïs?
On a besoin de machines, et si on n'a pas de machines, il faut un financement, beaucoup de moyens pour qu'on ait la main d'œuvre. C'est-à-dire, en demandant un financement à l'État, dans une banque, je vais demander le financement parce que j'ai participé au sommet international des jeunes agriculteurs. Ça veut dire que j'ai été formé pour un bout de temps.
D'après vous, le fait d'être venu en France, c'est une crédibilité, une garantie que vous pouvez présenter à des banquiers, par exemple. C'est à ça que ça vous sert ?
Oui, tout à fait. Donc, nous sommes 50 ans en arrière. Si on nous donne des moyens pour lancer l'agriculture, alors on va réduire à 20, on sera à 30 ans en arrière. Avec de l'argent, je peux m'acheter déjà en quantité des machettes que je vais mettre à la disposition des jeunes. Ils vont travailler et je vais les payer. Même si c'est manuellement, c'est-à-dire les jeunes ne doivent pas croiser les bras, attendre que les machines viendront pour travailler. Donc on doit se mettre au travail à partir de maintenant.
Et ça, il a fallu que vous veniez en France pour le comprendre.
Ah bien sûr, on vient en France pour le comprendre parce que c'est énorme. Avant, je ne pouvais pas m'imaginer qu'une personne peut faire 500 hectares. Alors, je vais rentrer, je vais faire 2 fois, 3 fois, pourquoi pas 10 fois que ce que j'ai fait avant, oui.
40% des actifs dans le monde sont des agriculteurs familiaux et du coup, bien, ces rencontres sont aussi une façon de montrer aux jeunes qu'on peut vivre de son exploitation familiale, Alice.
Oui, absolument. Et l'enjeu est énorme, hein. Les jeunes en Afrique se sont complètement détournés de l'agriculture. Être fermier aujourd'hui, c'est un métier qui est de plus en plus dévalorisé, que l'on choisit par défaut. La plupart des jeunes quittent donc leur campagne natale pour aller grossir les banlieues africaines. Et pour arrêter cette hémorragie, les jeunes agriculteurs africains doivent montrer à leur jeunesse qu'on peut vivre du fruit de ces récoltes.
Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas un peu décourageant? Le fossé entre l'agriculture française et africaine est énorme, hein, en termes de moyens de production ou de rendement.
Oui, et c'est d'ailleurs un vrai choc culturel, hein, pour les Africains venus ici en France. Je vous propose de retourner sur l'exploitation de Mathieu dans le village du Tremblay en Maine-et-Loire, qui a aussi accueilli Aïdara Ouedraogo, un agriculteur burkinabé de 34 ans, qui participe également au programme d'échange. Mathieu nous a tous emmenés en voiture à 2 km de sa ferme, chez son ami Franck Dalifar, qui est aussi éleveur et qui s'est équipé récemment d'une drôle de machine.
Bonjour, monsieur.
Monsieur, bonjour.
Pardon.
Bonjour.
Bonjour. Donc moi, j'habite ici. Donc on est... Moi, je suis marié. J'ai 4 enfants. Donc sur une exploitation familiale. Donc 40 vaches laitières pour une production de 350 000 litres. Et depuis 3 mois, du coup, on s'est équipé d'une traite robotisée où là, on peut s'avancer et le voir. Donc là, on va passer dans la salle de traite. Donc voilà. Donc là, on peut avancer au robot maintenant.
Le nouveau robot.
Le nouveau. Donc là, ça va changer, hein. La vache va être évacuée.
Là, elle s'en va.
La porte, elle s'ouvre à l'avant. Et donc, la prochaine vache rentre.
Donc là, on la voit, elle s'installe dans l'enclos.
Là, on la voit. Donc là, il fait un petit rinçage à chaque passage de vache.
On voit le bras mécanique qui est en train de nettoyer les pieds de la vache.
Voilà.
Et ça, avant, vous le faisiez vous-même, hein.
Ça, avant, tout était manuel, hein. Nous, aujourd'hui, on fait plus d'intervention, plus du tout d'intervention au niveau de la traite, quoi. La vache est autonome. Il n'y a presque plus besoin d'humains. Donc avant, on avait, on va dire, 2 heures, 2 heures et demie de traite par jour. Et au niveau production, depuis qu'on a la machine, on a gagné pratiquement 3 kilos de lait par vache, par jour. Donc voilà, là, il va repartir. Donc là, il cherche les traillons au laser.
Voilà, la lumière rouge.
Voilà, par infrarouge en fin de compte.
Donc la machine repère toute seule où sont les pieds de la vache et qui s'y accroche, quoi, tout seul en fait.
Ah, tout seul, ouais.
Et donc là, ça va commencer à pomper maintenant.
Voilà, ça y est, les 4 sont partis. Donc là, le lait qui passe, là, il arrive, il arrive là dans la cuve. La traite en direct, là, ouais.
C'est très drôle parce que les vaches font la queue en fait carrément pour se faire traire par la machine.
Oui.
Qu'est-ce qui attire les vaches à venir au robot?
Voilà la bonne question. Donc, en fin de compte, elles ont de l'aliment qui tombe justement devant la vache.
Ça, c'est les granulés, hein.
Voilà. Donc, c'est ça qui l'attire, en fin de compte, à venir.
Mais s'il y a d'autres vaches qui ne passent pas à la machine, comment vous arrivez quand même à les identifier?
Donc là, on sait, par exemple, là, je vais taper dessus, hein, sur l'ordinateur. Donc là, on a toute la liste, en fin de compte, des vaches qui sont en retard de passage. Là, c'est l'éleveur qui va chercher la vache et qui l'amène au robot, quoi.
Et alors, ça vous a coûté combien, cette machine?
Donc on arrive à un chiffre de 400 000 euros d'investissement. Là. On rembourse ça sur 9 ans.
Alors vous, Aïdara, justement, comment, quelle réaction vous avez face à cette machine?
Bon, mais c'est jamais vu. Moi-même, je n'ai jamais entendu qu'il y a des robots qui traient des vaches.
Vous allez raconter ça à vos confrères
en France? Oui, bien sûr, on va raconter aux confrères qui sont au Burkina, qu'en France, c'est pas l'homme qui traite les vaches, mais des machines qui traitent des vaches.
Et alors, comment ils vont réagir?
Mais du coup, peut-être ils vont essayer de ne pas nous croire, mais pourtant c'est la réalité en France ici, c'est les robots qui font la traite des vaches. Parce que chez nous, en campagne, nous, on n'a pas beaucoup, on n'a pas l'électricité qui nous permet quand même de tout installer comme ils installent ici avec les machines et puis les ordinateurs pour travailler. Et nos vaches aussi ne donnent pas beaucoup de lait comme les vaches de la France. C'est quand même la différence, quoi. Les animaux sont laissés à l'air libre, ils se débrouillent pour pouvoir avoir de quoi brouter, quoi.
Finalement, à quoi ça vous sert, vous, d'être ici pour voir ça? C'est-à-dire que, bon, vous voyez qu'ici, c'est plus moderne, mais qu'est-ce que ça peut changer pour vous, en fait, au pays, de savoir qu'ici, ça fonctionne comme ça?
Ça nous quand même donne l'envie quand même de pouvoir évoluer, parce qu'on voit qu'ils sont en train d'évoluer.
Mais vous, ce qui vous manque pour mécaniser autant, c'est les moyens financiers aussi.
Oui, la plupart des producteurs burkinabés, c'est des baies, ils utilisent pour quand même faire le labour. Hein. C'est que les tracteurs ne sont pas beaucoup. Hein. Dans 100 producteurs, il n'y a pas ceux qui ont des tracteurs, ne passe pas 10 par 10 producteurs. Ah oui, si un jour moi j'ai un tracteur dans mon exploitation, quand même, je pourrais quand même augmenter mes superficies et puis pouvoir mieux travailler et puis avoir quand même plus de revenus, quoi. Mais c'est le problème qui est là aujourd'hui au Burkina, c'est les banques demandent beaucoup de garanties, ce qui n'est pas quand même possible avec nous les agriculteurs. Nous n'avons pas de garanties qui quand même nous permet d'avoir quand même un crédit et puis avec des taux d'intérêt quand même qui sont un peu élevés.
C'est la douche. Bon, je sais pas, on peut proposer de passer de l'autre côté, voir l'alimentation des animaux et puis le logement.
C'est pas du vent sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons des rencontres internationales de l'agriculture familiale avec un reportage d'Alice Milo. Aïdara Ouedraogo, que vous venez d'entendre, est déjà venue dans une exploitation agricole française. C'était en 2007. Souvenir.
Moi, je suis agriculteur au Burkina Faso, plus précisément dans la région du Nord. Et j'ai fait la production de céréales. Fait aussi du maraîchage.
Donc ça fait 10 jours à peu près.
Voilà, 10 jours qu'on est en France ici et puis on a quand même eu la chance d'aller quand même échanger avec les agriculteurs. On a quand même visité des fermes en 2007, mais dès le retour au Burkina, j'ai essayé quand même d'améliorer ma technique de production parce qu'avant nous au Burkina, pour les semis des céréales, nous on les sème comme on le veut, mais dès le retour de la France en 2007, j'ai essayé quand même d'améliorer ma technique de production en semant en ligne avec les rayonnais que nous on utilise pour faire des lignes et puis utiliser quand même les baies pour quand même labourer les sangs et puis les sarcler les sangs avec les baies.
Avant, vous semiez de manière anarchique, en fait.
Ah oui, avant, on sème comme on veut. Hein, chacun prend sa partie, seulement il sème comme il veut.
Vous jetiez comme ça les graines?
Ah oui, on jette les graines comme on le veut. Mais en ce moment, on voit que la popularité n'atteint pas ce qu'on va semer en ligne, quoi. Ça veut dire, semer en ligne, ça facilite beaucoup les travaux aussi. Parce que si tu sèmes en ligne, tu peux rentrer avec tes bœufs pour quand même faire le sarclage et puis faire le binage avec le bœuf.
Ça, c'est vraiment une technique que vous avez apprise ici et que vous avez pu copier ensuite chez vous.
Ah voilà, c'est une technique qu'on a beaucoup apprise ici.
Et pourquoi il y avait cette technique anarchique? Pourquoi personne n'avait pensé à faire des sillons avant?
Oui, bon, en fait, nous, on peut dire qu'on est né quand même trouver que nos papas, ils s'aimaient comme ça. Et puis, du coup, avec quand même, maintenant, avec les changements climatiques, et puis, bon, les pluies sont un peu rares, il faut quand même suivre les nouvelles technologies pour pouvoir avoir quand même des bons rendements, quoi.
Vous avez quoi? Vous avez doublé votre production ou c'est exagéré de dire ça?
Oui, bon, je ne peux pas dire que c'est doublé, mais ça a amélioré quand même les rendements parce que si je pouvais avoir peut-être une tonne à l'hectare, je peux aller peut-être à une tonne et demi ou à deux tonnes à l'hectare. Je ne peux pas dire que c'est doublé, mais ça commence à aller mieux qu'avant, quoi.
Alors avec les témoignages d'Anis, d'Aïdara et d'Alphonse, on a bien compris l'intérêt des Africains pour ces échanges. Mais les agriculteurs français qui les accueillent, qu'est-ce qu'ils y gagnent, Alice?
Beaucoup humainement, ça paraît évident, mais beaucoup à long terme aussi, quant à l'avenir de leur profession. Et celle qui en parle le mieux, c'est Anne-Claire Dano, une agricultrice française, également secrétaire générale de l'AFDI Pays Loire. Elle a 35 ans, mais une très longue expérience de ces échanges internationaux.
Quand on a accueilli Noufou à la fin des années 80, moi j'avais une dizaine d'années, Donc moi, en tant que petite fille, de découvrir déjà un noir en Mayenne, il n'y en avait pas beaucoup à cette époque-là. C'était déjà un premier choc. Et puis
c'est vos parents qui étaient les accueillants.
C'est mes parents qui étaient les accueillants, effectivement. Et c'est un peu le choc des cultures, en fait. On se rend compte de comment eux vivent là-bas, qu'est-ce que c'est que leur quotidien. Et on casse tous les clichés et les stéréotypes que nous, Français, on peut avoir sur les pays du Sud. Souvent, on entend que, ils avancent pas, ils font rien. Ils sont les pouces, ils veulent juste venir en France, enfin, ouais, tout un tas de clichés comme ça qui persistent hein, aujourd'hui et eux-mêmes ont des clichés aussi sur ce que c'est que d'être français aujourd'hui quoi. Ils pensent que pour beaucoup avant de venir en France ils n'imaginent pas qu'en France on travaille vraiment pour gagner de l'argent, que l'argent ne nous tombe pas tout cuit dans les mains et c'est la première remarque qu'ils nous font les paysans burkinabés quand ils arrivent ici, c'est de se rendre compte que un agriculteur il travaille quoi, il travaille du matin jusqu'au soir, il a même des fois des réunions le soir parce qu'il a des responsabilités professionnelles, que effectivement c'est pas parce qu'on est blanc qu'on est riche et que si on a un peu d'argent c'est bien parce qu'on travaille. D'apprendre à connaître l'autre pour ce qu'il est réellement et pas par les images que l'on voit à la télé qui sont rarement des belles images quoi.
Vous avez eu d'autres accueils de Burkinabé ensuite ?
Oui, alors pas moi, toujours mes parents qui ont accueilli, mais là du coup j'avais une vingtaine d'années, qui ont accueilli une animatrice. Donc là, effectivement, la discussion est un peu différente parce que quand on est plus grand, on pose d'autres questions, notamment sur quelle est la place de la femme dans la vie au Burkina, comment ça se passe pour la famille, enfin des questions vraiment un peu plus générales quand même.
Finalement, l'agriculture, on a l'impression que c'est presque un prétexte à ces rencontres.
Oui, clairement, oui, c'est ça. Enfin, moi, je l'ai beaucoup vécu comme ça, en fait. Depuis, je suis aussi allée au Burkina, j'y ai travaillé pendant un an.
Et c'est donc, ça qui vous a donné envie ?
Oui, c'est vraiment le premier facteur de quand j'étais petite. Je m'étais toujours dit, un jour, j'irai en Afrique. Et je pense que s'il n'y avait pas eu ces rencontres, jamais j'aurais rencontré des agriculteurs comme ça. Et jamais je me serais autant intéressée à l'Afrique, en fait. Moi, ce que ça m'a surtout apporté, c'est un autre regard sur le monde et sur l'agriculture mondiale, parce que c'est là où j'ai effectivement le plus découvert qu'on avait vraiment des problématiques communes. Qu'on soit agriculteur en France, en Europe, en Amérique du Nord, ou quel que soit, ou en Afrique, en Asie, ou en Amérique latine, on a tous des problématiques qui sont plus ou moins identiques, dans des mesures moindres sur certaines thématiques, mais par exemple, on a tous des difficultés avec le foncier, l'accès au foncier. On a tous des difficultés avec la commercialisation de nos produits, avec l'installation de jeunes, le renouvellement des générations. C'est des problématiques qui sont communes, quel que soit le continent, et quel que soit le pays et le type d'agriculture. C'est déjà quelque chose qui nous réunit tous et je pense que moi à titre personnel qui suis agricultrice, avant de m'investir dans l'AFDI, c'est une réalité que je ne mesurais pas.
Mais concrètement, ça peut aboutir à quoi en fait tout ça ?
Eh ben, c'est déjà de se fédérer parce que si on veut défendre un certain modèle agricole, une agriculture familiale, c'est pas nous Français tout seuls qui au niveau mondial arriveront à le faire. Et c'est pas les pays du Sud eux tout seuls qui arriveront à le faire. Donc à un moment donné, il faut que l'ensemble des pays, l'ensemble des agriculteurs prennent conscience de cela, de porter la voix de son pays, de ses agriculteurs auprès de son gouvernement, et puis après le gouvernement de trouver ses appuis et puis de les porter encore plus haut, quoi.
Et pour porter ces voix, l'AFDI, le syndicat des jeunes agriculteurs, ont organisé le sommet international des jeunes agriculteurs. Un sommet qui s'est tenu à Bordeaux début septembre et qui a réuni 200 participants venus du monde entier pour ratifier un manifeste des jeunes agriculteurs issus des 5 continents. C'est ça, Alice ?
Oui, un manifeste qui a été soutenu par Stéphane Le Foll, un ministre de l'Agriculture français, et qui est d'ailleurs venu conclure le sommet. Vincent Touzeau, administrateur au syndicat des jeunes agriculteurs, explique une des mesures phares de ce manifeste.
Une des plus emblématiques, c'est le fait que l'Organisation mondiale du travail reconnaisse l'agriculture comme un métier, quoi. Simplement ça. Parce que dans beaucoup de pays, je pense, l'agriculture, c'est simplement un mal nécessaire. Par exemple, je suis allé au Népal voilà, il y a quelques temps. Et quand on regarde dans les guides, le guide nous dit bien, il y a 40-50% de la population qui est au chômage. Or voilà, ces gens qui sont considérés comme chômeurs, mais finalement, c'est simplement pour une partie des paysans, quoi. Voilà. C'est des agricultures de subsistance. Et ça, il faut qu'on le reconnaisse, quoi. Il faut qu'on professionnalise pour derrière arriver à donner du poids à l'agriculture dans les organisations internationales.
Mais la reconnaissance politique dans ces instances internationales, oui. Elle a quoi comme enjeu concret ensuite sur la vie des gens ?
Ah ben c'est énorme en fait. Je veux dire, le jour où on est capable de dire, de reconnaître un statut à une personne qui n'en avait pas avant, on est capable de créer pour lui des politiques agricoles, on est capable de lui donner un accès aux moyens de production, au financement.
Parce qu'on l'a identifié.
Parce qu'on l'a identifié et parce qu'on est capable de faire des politiques ciblées pour lui. Et ensuite, après, on peut mettre en place des politiques agricoles qui leur sont destinées, quoi. Et des politiques agricoles cohérentes, quoi. Voilà.
Allez, allez, préparez-vous, il faut leur faire la ola.
Ça ressemble à vos soirées au Burkina Faso?
Ah oui, chez nous aussi, après les travaux aussi, on a quand même un petit temps aussi pour se distraire quand même. C'est typiquement français, hein, c'est leur courant, là. Moi, je ne peux pas suivre leur rythme, mais chez nous, c'est carrément différent. La musique, chez nous, dans les bars, comme ça, c'est de la musique qui qu'on danse, les coupés décalés, et puis tout, quoi. Ouais.
Merci Alice Milot pour ce reportage. Merci également à Ludivine Amado qui était à la technique et à la réalisation cette semaine. Et on se quitte avec Aïdara qui a lui aussi poussé la chansonnette à demain.
Contre la scénique imignale, il y a des amis là. La rapace était venue des lointains en Serbie il y a longtemps. Beaucoup français et certains résistaient.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'est pas du vent@rfi.fr.